Et à midi, on aime Canalem. Et on aime l'été. On aime l'été aussi, que voulez-vous? Je fête un anniversaire aujourd'hui, mes amis. Ça fait 30 ans que vous n'avez pas réussi à me remettre dans l'avion pour retourner de l'autre côté. Alors peut-être que j'ai un petit peu la tête ailleurs. Bonjour à vous toutes et vous tous, c'est Clotilde Seil au micro de Canal M. Et oui, votre magazine du midi aime l'été. Et toutes sortes de beaux sujets, surtout encore une fois des belles entrevues. On va aller à la rencontre, par exemple, d'un camp de plein air du lac Flavrillan. C'est en Abitibi-Témiscamingue et c'est Marilyn Moore, la chef de camp, qui va nous parler. Je vais aussi recevoir pour la première fois, mais pas la dernière, Agathe Tupula-Kabola, qui est directrice générale et orthophoniste d'une... Comment on appelle ça? Bonjour Agathe, c'est une clinique d'orthophonie, on appelle ça comme
clinique
ça?
Clinique multithérapie Proaction. Donc avec plusieurs professionnels.
Eh bien, on va en parler tantôt et surtout, vous allez nous parler de 5 trucs pour stimuler le langage de l'enfant pendant l'été. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On les laisse tomber parce que c'est l'été? Mais non, c'est pas le temps, justement. Également à l'émission, Vivre sans ma voiture, une intervention pour outiller les aînés qui ne peuvent plus conduire. Notre invitée, Mélanie Levasseur, ergothérapeute et professeure chercheuse du Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke. Et puis, nous irons au Nouveau-Brunswick, tiens, aujourd'hui pour faire connaissance avec l'AMBIC, l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire, qui a reçu rien de moins que le prix national du Globe and Mail. Et on commencera cette émission, bien évidemment, par quelques nouvelles. Handicap international, peut-on lire dans le journal Metro.com, va développer l'impression 3D pour fabriquer des prothèses, un procédé qui permettra de les produire plus vite et de faire bénéficier un plus grand nombre de patients à travers le monde, a annoncé l'ONG jeudi. Depuis 2015, Handicap international travaille sur un projet pilote de prothèses de membres inférieurs, jambes, tibias, testées au Togo, en Syrie et à Madagascar, selon un communiqué. 19 patients ont été équipés en 2016 d'une de ces prothèses d'un nouveau genre. Plus de 200 le seront en 2017 en Inde et en Syrie, a déclaré Jérôme Canicave, prothésiste et expert 3D, interrogé par l'AFP. L'objectif est d'installer d'ici à la fin de l'année un centre d'impression au Togo, a précisé l'ONG. Outre l'impression 3D, des techniques de SAO, conception assistée par ordinateur, seront employées, ainsi que des outils plus classiques tels que le scanner ou la visioconférence pour la réalisation de ces prothèses ou orthèses, appareillage qui compense un déficit de fonctionnement d'un membre ou d'un muscle. Là, on a un petit scanner qui se range dans un sac et qui permet de prendre les mesures du moignon. Celles-ci sont ensuite envoyées à un logiciel de modélisation, puis à l'imprimante 3D. Un orthoprothésiste assiste ensuite à l'essayage et donne des instructions par visioconférence. « J'ai fait ça pour la Syrie. J'étais chez moi et j'ai démarré la rééducation du patient », raconte M. Canicave. « On gagne du temps et surtout la possibilité d'aller vers des gens plus isolés auxquels on ne pouvait accéder jusqu'à présent grâce à ces procédures bien moins lourdes », se félicite la porte-parole. Seul bémol, le coût élevé des nouvelles prothèses, évaluées à environ 1 800 $ l'unité contre 100 $ pour un appareillage traditionnel. Après avoir démontré la pertinence de ces nouveaux procédés, l'ONG cherche désormais à réduire les coûts. Des rampes portables pour accroître l'accessibilité. 2 commerces de plus de Sudbury sont maintenant équipés de rampes portables en Ontario pour permettre aux personnes handicapées d'entrer plus facilement dans leurs locaux. C'est d'après un texte de Benjamin Aubé dans iciradiocanada.ca. Gaston Tremblay passait par hasard devant le café Salouté au centre-ville en quadriporteur électrique. Il en a profité pour être le premier à essayer la nouvelle rampe livrée par l'organisme Stop Gap Sudbury. « Ça va bien et c'est commode », a-t-il commenté. « Ça donne la chance au commerce de recevoir plus de monde ». La hauteur des rampes est d'environ 15 cm. Cette légère élévation par rapport au niveau de la rue constitue un obstacle pour les personnes en fauteuil roulant comme Daniel Lebrun. Monsieur Lebrun et sa conjointe, Nadine Lowe, ont décidé de créer Stop Gap, à Sudbury pour aider les personnes handicapées et pour sensibiliser les commerçants et le grand public aux avantages de l'accessibilité. Les trois quarts des commerces en ville ne sont pas accessibles, explique M. Lebrun. Il y a tout le temps un bon 10 cm ou plus pour pouvoir entrer et c'est impossible de lever un fauteuil roulant. Avec une rampe comme celle-ci, c'est très portatif et ce n'est pas lourd. Les commerçants peuvent la rentrer quand ils n'en ont pas besoin et la sortir quand un client veut s'en servir. Monsieur Lebrun ajoute que les rampes peuvent aussi être utiles pour les parents qui ont une poussette ou les personnes qui font des livraisons. Le propriétaire du café Salute, Tania Renelli, a payé environ 300 $ pour cette rampe qui lui a été livrée mercredi. Le programme repose sur le travail de bénévoles ainsi que sur la participation d'élèves d'une école secondaire qui ont construit les rampes. D'après un article de Jean-Luc Notias dans le Figaro.fr, l'écolocalisation ou comment voir avec ses oreilles, un chercheur suédois espère pouvoir améliorer la façon dont on peut enseigner l'écolocalisation à des personnes voyantes qui ont perdu la vue. Sans égaler les chauves-souris, l'homme a une certaine aptitude à utiliser ses capacités d'écolocalisation, mais cette compétence est cachée et nécessite pour se révéler un bon entraînement. Ceux à qui cette compétence serait le plus utile sont les personnes victimes de cécité totale ou partielle. C'est pourquoi le chercheur suédois Bo Schenkman de l'Institut royal de technologie à Stockholm s'est essayé à caractériser la façon dont chez l'homme peut fonctionner cette possibilité. Son étude a été présentée à Acoustique 17, congrès commun des sociétés d'acoustique américaines et européennes, qui se tenait jusqu'au 29 juin à Boston. Bo Schenkman espère ainsi pouvoir améliorer la façon dont on peut enseigner cette technique à des personnes voyantes qui ont perdu la vue. Car les non-voyants de naissance ont développé largement leurs compétences pour interpréter les données auditives émises, par exemple par leur canne blanche frappant une certaine surface. Le chercheur a ainsi pris en compte dans son étude la hauteur, la force, le volume du son et son timbre. Ce dernier, appelé couleur, couleur du son, permet de distinguer une même note jouée avec le même volume entre par exemple une clarinette et une flûte à bec. Il avait déjà mené des expériences avec des personnes voyantes ou aveugles sur leur capacité à voir et ou entendre les échos des sons. En réexaminant ces enregistrements, il s'est aperçu que l'utilisation de l'écholocalisation était non seulement liée à la hauteur et à la force du son, mais aussi au timbre. Sans grande surprise, les non-voyants sont en moyenne meilleurs que les voyants pour discriminer deux sons survenant à très peu de temps d'intervalle. Ils sont également plus habiles à éviter de se faire berner. Quand on entend deux sons très rapprochés dans le temps provenant d'endroits différents, on a tendance à n'en voir, entre guillemets, qu'un seul, localisé comme venant de l'endroit issu du son arrivé le premier. Le fait que l'homme puisse écholocaliser est un sous-produit de notre système auditif, reconnaît le chercheur. Nous ne serons jamais des chauves-souris, mais connaître les mécanismes à l'œuvre et leurs différences peut être source de nombre d'enseignements. Nous prendrons l'habitude quelquefois d'aller visiter, si j'ose dire, des camps de plein air, des camps qui accueillent évidemment des personnes qui vivent avec des déficiences ou physiques ou intellectuelles ou les deux. Et bien là, nous allons en Abitibi-Témiscamingue, allez hop, d'un seul coup comme ça, nous allons sur les bords du lac Flavrian où en principe m'attend Marilyn Moore, la chef de camp. Bonjour Madame Moore.
Bonjour.
Je suis très contente de pouvoir parler avec vous aujourd'hui dans ce camp de vacances qui est un camp à la fois pour les adultes et pour les enfants, c'est bien ça?
Oui, on a des séjours différents pour les enfants et pour les adultes.
D'accord. Alors, quel type de personnes handicapées recevez-vous? Quels sont les types de handicap avec lesquels ils vivent?
Dans le fond, nous, on accepte vraiment tout le monde, donc ça peut passer enfants, adultes avec une déficience intellectuelle. Mm-hmm. Ça peut être des gens avec une déficience physique, avec aucune déficience intellectuelle associée. Oui. On reçoit également des personnes avec des troubles de santé mentale, troubles du spectre de l'autiste, personnes âgées, des personnes avec des maladies dégénératives.
Dites-moi, il est né quand ce camp-là et comment? Parce que je pense que c'est une histoire assez sympathique, non?
Oui, quand même. En fait, c'est parti, si je me souviens bien, autour des années 1970, fin 70, début 80.
Ah oui, hein?
Donc, plus qu'une trentaine d'années, c'est un petit groupe de bénévoles qui avait remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de service de loisirs mm-hmm. pour les personnes vivant avec un handicap dans la région à ce moment-là. Donc, ils ont lancé l'idée comme ça. Ils ont été chercher quelques promoteurs.
Oui.
Puis, au fil du temps, on est parti d'un petit projet avec un petit chalet, 50 lits, une petite cafétéria. Finalement, on est rendu avec deux dortoirs, un cafétéria, une grande salle, un terrain, une plage, une piscine, un spa,
wow.
etc.
Et vous pouvez accueillir combien de personnes en même temps?
À la semaine, le nombre maximal, c'est autour de 75, je vous dirais.
Ça prend du personnel, ça, madame? Ça prend du monde pour autour de ces gens-là? Hein?
En effet. C'est très rare ces temps-ci qu'on atteint ces limites-là. Mm-hmm. Donc, je vous dirais que depuis quelques années, on tourne autour de 50-60 dans le maximum.
Et dites-moi, alors, ce sont des animateurs spécialisés? Est-ce qu'il y a des éducateurs qui sont là? Des bénévoles?
Nous, premièrement, on engage seulement des étudiants.
OK.
Donc, on va aller chercher des étudiants dans les cégeps, dans les universités, ceux qui vont étudier dans le domaine. Donc,
ah,
bien sûr. Des éducateurs spécialisés, préposés aux bénéficiaires, etc.
Oui, parce qu'on ne peut pas mettre là, tout d'un coup, dans un tel environnement, des gens qui ne s'y connaîtraient pas du tout, par exemple, en ce qui concerne l'autisme ou autre, quoi.
Exactement. Donc, on ne peut pas prendre n'importe qui en tant que tel. C'est quand même des personnes vulnérables qui ont mm-hmm. des plans d'intervention, des choses à vérifier avec eux, des façons de communiquer également. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure de leur donner une semaine de formation avec ouais. Toutes ces informations-là.
Bon, et puis j'imagine qu'on ne mélange pas, il n'y a que des enfants avec un handicap ou est-ce que vous accueillez aussi des enfants, entre guillemets, bon, qui n'ont pas de handicap et...
Oui, en séjour enfants-adolescents,
oui?
C'est sûr, la majorité, c'est vraiment des enfants qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Mm-hmm.
Mais on va accepter également les enfants, ceux qui ont déjà côtoyé des personnes qui ont des handicaps, donc qui connaissent un peu la réalité.
Bien
sûr. On accepte des enfants qui ont peut-être juste un petit TDAH, un trouble déficitaire
oui.
de l'attention avec hyperactivité.
Oui.
Puis il y en a que c'est seulement des troubles de langage également. Puis j'en ai qui n'ont rien du tout, mais on sait qu'avec les enfants, ça ne voit pas ces choses-là.
Mais c'est vrai, hein, ce que vous dites. Hein, un enfant a beaucoup moins, apporte beaucoup moins de jugement. Mais quoique, ce n'est peut-être pas vrai non plus tout le temps, mais de façon générale, hein, disons-le comme ça. Alors, durant l'été, vous allez offrir combien de camps différents?
Nous, en fait, on fonctionne par séjour. On a 4 séjours qui durent
d'accord.
2 semaines chaque. Donc, nos vacanciers ont le choix soit de rester une semaine ou les deux.
Mm-hmm.
Donc, on a toujours un premier séjour avec une clientèle visée. Quand on parle du premier séjour, c'est des adultes majoritairement avec une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l'autisme.
Oui.
Quand on tombe sur le deuxième séjour, c'est celui où on est présentement. Là, c'est là qu'on a les enfants et les adolescents avec ou sans capacité.
D'accord.
On tombe également sur le troisième séjour. Encore une fois, majoritairement des adultes avec une déficience intellectuelle, trouble de santé mentale, trouble du spectre de l'autisme. Donc, mm-hmm. ça revient beaucoup. Et puis, à la fin, on tombe avec le dernier séjour. C'est majoritairement des personnes avec une déficience physique, déficience intellectuelle. On va vraiment plus se cibler au niveau des déficiences physiques, personnes âgées, maladies dégénératives, etc.
D'accord. Même donc des personnes âgées. Eh bien,
oui.
D'accord. Donc, c'est vraiment complet. Hein. Vous accueillez vraiment, vraiment tout le monde. Tout a été pensé pour faire plaisir à une large catégorie d'individus. Dites-moi, Madame Moore, est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour les deux derniers? Parce que là, si je comprends bien, le deuxième est en cours. Donc, est-ce qu'on peut s'inscrire pour les deux derniers?
On accepte toujours les inscriptions.
On fait comment pour s'inscrire à votre camp?
Donc, on peut soit s'informer auprès de notre réceptionniste adjointe administrative. On appelle directement au Lac Flavrian. Donc, nous, avec la communication, on va vous faire parvenir les dossiers d'inscription, le document d'information sur les choses à emmener et tout.
D'accord. OK.
Donc, c'est le meilleur moyen à ce moment-là pour qu'on explique aux parents, aux familles intervenantes de la
oui.
façon qu'on fonctionne.
D'accord. On trouve tout ça sur votre site web, j'imagine?
Oui, sur le site www.cpalf.com. Malheureusement, on a des problèmes avec, donc
ah.
on n'est pas à jour, donc... Ceux qui vont voir le site qui est à jour de 2013, si je me souviens bien.
Ah, OK, en effet, je comprends. Donc, il vaut mieux vous joindre par téléphone?
Exactement. Sinon, il y a sur la page Facebook aussi, on est...
Ah, ça, c'est pratique.
Oui.
Et la page Facebook, elle s'appelle comment, Mme Moore?
C'est Centre plein air Lac Flavrian.
Donc, Centre plein air du lac Flavrian, avec ça, on vous trouve facilement sur, sur Facebook. Et oui. Puis, une dernière question, donc, les gens qui sont actuellement là-bas dans votre camp ou ceux qui vont s'inscrire prochainement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme activité?
Selon la clientèle, selon les âges et tout, donc on a un responsable de la programmation qui va vraiment adapter les activités à toute clientèle. Donc, bon. Il y a de la piscine, de la plage. La piscine, on est adapté pour recevoir les personnes en fauteuil.
C'est vrai?
Oui. Oui, on a un lève-personne pour ça. Le spa également est adapté.
Épatant.
On a un ponton pour faire du bateau. On a un camping privé également. On a un parc pour les enfants, on a un grand terrain pour les sports, une grande salle, un gymnase avec un costumier pour faire des spectacles.
Ah, il y a des spectacles aussi?
Oui, c'est les vacanciers qui performent.
C'est vrai?
Oui, on appelle ça les spectacles amateurs du mercredi soir.
Mais oui, mais c'est fort sympathique ça.
Oui.
Qu'est-ce que vous montez comme genre de spectacle?
Je vous dirais qu'avec les vacanciers, ce qui fonctionne vraiment, c'est les spectacles de musique.
Oui.
Donc, dans le style karaoké, on fait des adaptations, des émissions populaires d'aujourd'hui, comme La Voix, par exemple.
Ah!
Star Academy, des choses comme ça. Ça fonctionne très, très bien avec les vacanciers.
Avec des juges et tout ça.
Ah oui.
Ça doit.
Le maximum.
Bon, c'est parfait, Madame Moore. Donc, on ne s'ennuie pas au camp de plein air du lac Flavrian.
Pas du tout.
Avec Marilyn Moore, qui vous êtes la chef de camp. Et on vous remercie beaucoup ici à Canalem d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes en Abitibi-Témiscamingue et qu'il y a encore de la place pour les gens qui voudraient s'inscrire pour les deux prochains camps que vous allez organiser. Voilà.
Oui.
Je vous souhaite une belle journée, Madame Moore, et puis bon camp à ceux qui sont là. Et voilà, au plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Queda claro. Los años que han pasado, solo guardo este incómodo silencio y un camino que emprendimos sin salida. Queda claro las preguntas que hoy has hecho, dicen a gritos que nada has entendido. Que el camino para ti siempre fue incierto. Hoy es mi despedida, voy a un mundo nuevo. No es tiempo para excusas, ya no es el momento. Y lo que dije ayer es cierto. Mi despedida, voy a un mundo nuevo. No es tiempo para excusas, ya no es el momento. Y lo que dije ayer es cierto.
Et et elle est en studio, j'accueille, je vous le dis, c'est la journée, je pense. Agathe Tupula-Cabola, bonjour Agathe, j'aimerais d'abord qu'on fasse connaissance avec vous un petit peu, parce que les gens qui vous connaissent, il y en a qui vous connaissent un petit peu parce que vous êtes déjà chroniqueuse, notamment avec, dans l'émission de Marianne Paquette, oui. C'est bon pour la santé, mais j'aimerais que peut-être les auditeurs de M l'été qui vous connaissent un peu moins fassent connaissance. Alors présentez-vous Agathe.
Oui, donc je suis orthophoniste et directrice générale à la clinique Multithérapie Proaction et je suis également auteure aux éditions du CHU Sainte-Justine et j'aime également accorder des entrevues, des chroniques dans les médias, donc on peut m'entendre à l'émission de Marianne et aussi à des chroniques à la télévision, à la radio.
Oui, d'accord, oui. Sûr. Pas seulement l'orthophonie, hein. c'est plus vaste que cela dans votre clinique, hein. C'est
oui.
Bien ça?
Donc à notre clinique, on intervient vraiment de façon multidisciplinaire, donc en fait je travaille également avec des ergothérapeutes, avec des psychoéducatrices et avec une psychologue également.
Okay.
Donc, c'est axé sur le bien-être global de l'individu.
De l'individu, qui oui. Parfois n'a pas seulement que des problèmes de langage. Mais mettons qu'un problème de langage peut peut-être, en l'occurrence, cacher autre chose ou être révélateur d'un autre souci.
Oui, tout à fait. Parce qu'un trouble de langage vient rarement seul. Il peut y avoir d'autres sphères du développement qui sont affectées également.
Elle est où, votre clinique?
Elle est située à Ville-Saint-Laurent, sur le boulevard Marcel-Lorrain.
D'accord. Alors, merci d'être venue de là jusqu'à notre studio dans le quartier Ville-Marie. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous proposer une chronique sur... des trucs, 5 trucs pour stimuler le langage pendant l'été, parce que notre question, c'était, les enfants, ils font quoi pendant l'été? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour s'en occuper? Enfin, c'est un petit peu de ce dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Parce que l'été, ça peut être une période qui est stressante pour les parents,
oui.
Particulièrement pour les parents de jeunes enfants ou ceux qui sont à l'école également. Durant l'année scolaire, ils sont stimulés au quotidien, ils apprennent différentes choses, mais durant l'été, on veut quand même continuer à les stimuler sans se mettre de pression. C'est très important.
Oui.
Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire ou activités auxquelles on peut penser en tant que parent pour continuer à stimuler le langage et les apprentissages de l'enfant. Et c'est très important dans le plaisir.
Oui, j'aime ça. Oh, que j'aime ce mot.
Ah oui, tout à fait. Parce que le plaisir, c'est la voie première des apprentissages. Puis, c'est le premier langage des enfants, pour moi, c'est celui du plaisir.
Donc, ah oui.
D'ailleurs, c'est un des trucs que je vais donner, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le plaisir. Essayer de choisir des activités qui sont en lien avec les intérêts de l'enfant. Donc, vraiment, on peut lui proposer différentes activités si on veut l'amener à élargir l'éventail de ses intérêts. Si on note que notre enfant choisit souvent, par exemple, les mêmes activités. Mais aussi choisir des activités qui vont permettre de stimuler tous les sens.
Mm-hmm.
Donc, autant, l'ouïe, l'odorat, le goûter, la vue. Donc, vraiment, ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, si on veut.
Alors, par exemple?
Par exemple, on peut penser à des cours d'éveil musical.
Oui.
Donc, les gens peuvent se demander, mais c'est quoi le lien entre l'éveil musical et le langage? Mais en fait, les ondes du cerveau qui traitent la musique sont très proches de celles qui traitent le langage. Et puis, on a noté à travers différentes études que les enfants qui suivent des cours d'éveil musical vont avoir une certaine facilité au moment d'apprendre à lire et à écrire à l'école. Donc,
c'est
ça va
fou,
favoriser ça.
C'est incroyable. Hein?
Tout à fait. Et ça va développer ce qu'on appelle la conscience phonologique, qui est la capacité à pouvoir manipuler, segmenter les différentes unités sonores du langage. Donc, on peut penser aux rimes, on peut penser également aux phonèmes. Donc, ça va permettre de stimuler ça et ça va avoir un impact sur la lecture.
Mmh.
Et en même temps, ça développe la mémoire auditive.
C'est vrai. Allez, on continue,
donc,
j'adore ça.
Une autre idée d'activité très, très importante, penser à transmettre l'amour de la lecture à son enfant. Donc, vraiment favoriser le plus possible des périodes de lecture au quotidien. Et quand je parle de lecture, c'est pas nécessairement avec un livre. Oui, les livres, c'est très important. Puis pour moi, ça demeure le meilleur jouet des tout-petits. Mais il faut penser aussi à tous les contextes de la vie de tous les jours où on est face à la lecture. On peut penser au moment où on fait la liste d'épicerie, quand on va au restaurant et qu'on regarde le menu. Donc, partager le menu avec son... Oui, tout à fait.
Oui. Ben, c'est ça.
On peut penser à lire les chiffres sur les adresses, donc des maisons, voir le nom des rues. Donc, la lecture est omniprésente.
Ouais.
Et puis, c'est très important d'encourager le goût de la lecture parce que c'est un bon prédicteur de la persévérance scolaire. Donc, la lecture est omniprésente dans toutes les matières à l'école. Et un enfant qui n'aime pas lire va souvent être plus à risque d'être en échec.
Oh, chère Agathe, si vous saviez comment je partage votre avis. Alors, allez, autre chose.
Donc, un autre conseil que je peux donner, c'est de penser à organiser une période de causerie au quotidien. Souvent, les parents vont demander aux enfants, « Ah, ben comment s'est passée la journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avec les amis, avec ton éducatrice, le moniteur du camp de jour? » Puis souvent, les réponses qu'on va avoir sont très, très brèves. « Ah, je me rappelle pas. J'ai joué. J'ai mangé. Mais encore. » Donc quand notre enfant élabore peu par rapport à ce qu'il a fait durant sa journée, il y a différentes astuces qui peuvent être utilisées sans mettre de pression sur l'enfant pour autant. Première chose, très banale, le parent peut lui-même penser à raconter sa journée parce que l'enfant apprend beaucoup par modèle.
Bien sûr.
Donc, le parent peut raconter lui-même ses différentes activités de la journée pour donner un modèle à son enfant. Par la suite, si l'enfant dit simplement, par exemple, « j'ai joué », bien, on peut offrir des choix de réponse à l'enfant ou poser des sous-questions, si on veut. Donc, tu as joué avec qui? Est-ce que c'était avec tel ami ou telle autre personne, par exemple? Donc, puis aussi, il ne faut pas non plus toujours avoir le réflexe de poser la question dès qu'on va chercher l'enfant au camp de jour ou à la garderie, par exemple. On peut laisser un moment de repos puis attendre un meilleur moment où l'enfant est vraiment disposé à élaborer.
C'est une bonne idée, ça.
Et des fois, c'est avant le coucher et c'est pas tout nécessairement quand on va le chercher fin de journée.
Exactement. Dites-moi, Agathe, apprendre une deuxième langue pour un enfant, est-ce que ça peut être une bonne idée, par exemple, en été?
Tout à fait. Donc, vous parlez à une fervente croyante du bilinguisme. Oui, ça a été démontré par plusieurs études. Il y a de plus en plus de chercheurs à travers le monde qui se penchent sur les bienfaits du bilinguisme, pas seulement chez les enfants, mais aussi chez les personnes âgées, chez les adultes. Oui. Donc, ce qu'on note, c'est que les enfants qui sont bilingues vont souvent avoir une longueur d'avance à l'école au moment d'apprendre à lire et à écrire. Ils vont souvent comprendre plus tôt les règles de grammaire. Ils vont avoir également une meilleure capacité à résoudre des problèmes, meilleure capacité d'attention. Ouais. Et on note même des habiletés améliorées au niveau social, par exemple une plus grande empathie, meilleure capacité à se mettre dans la peau de l'autre. Donc, je dirais autant des bienfaits au niveau cognitif que social et culturel, parce que qui dit langue dit aussi culture. Avec une langue, il y a tout un bagage culturel.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, ça, c'est vraiment très important, surtout quand la deuxième langue ou la troisième langue est une langue minoritaire.
Oui.
Donc, qui n'est pas nécessairement valorisée par la société d'accueil. Et puis, d'autant plus que là, il faut la valoriser encore plus.
Exactement.
Et exposer l'enfant à cette langue.
Alors, si je vous résume bien, profitons de l'été pour apprendre à nos enfants, par exemple, un instrument de musique, pour leur faire apprendre quelques mots d'anglais, si vous êtes francophone ou le contraire, pour quoi d'autre encore, organiser des périodes de lecture, de causerie.
Oui.
Et puis, faites-les lire n'importe quoi, les affiches dans les rues, tout ça.
Exactement.
Je vous ai bien comprise, Agathe.
Tout à fait.
Eh bien, j'ai déjà hâte à la prochaine chronique.
Ah, ben c'est génial, moi aussi.
Je vous remercie beaucoup. J'étais avec Agathe. On dit Tupula ou Tupula?
On dit Tupula.
Tupula Kabola. Je vous remercie beaucoup, Agathe.
Ça fait plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Aime l'été. Vivre, vivre, vivre sans ma voiture, c'est pas facile. Hein? Alors, vous savez, quand on arrive à un certain âge, à un moment donné, on vous apprend que vous ne pourrez plus être en mesure de conduire votre voiture. Ça peut être un choc pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Il me semble que c'est quand même un moyen d'être libre, hein, la voiture, de pouvoir aller un petit peu n'importe où. Oui, vous me direz, il y a d'autres moyens de se déplacer, de bouger, mais me semble-t-il, la voiture, c'est d'importance capitale dans une vie. Et pour parler d'une intervention pour outiller les aînés qui ne peuvent plus conduire, eh bien, j'ai la personne idéale pour ça. Elle s'appelle Mélanie Levasseur. Elle est ergothérapeute et professeure chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke. Bonjour, Madame Levasseur.
Bonjour.
Alors, je le disais en préambule, hein, Madame Levasseur, arrêter de conduire, c'est une étape parfois difficile pour les personnes âgées. Hein. D'après vous, quels sont les effets de cette étape-là? Comment les gens réagissent-ils lorsqu'on leur apprend qu'on ne peut plus conduire?
Ben, Comme vous l'avez mentionné, c'est effectivement un choc. Hein? C'est tout. Beaucoup de nos activités et notre façon de se déplacer est basée sur l'automobile, l'usage de l'automobile. Mmh. Donc, les aînés qui cessent de conduire voient souvent leur participation sociale et leur intégration dans la communauté qui est réduite. Cette réduction-là peut même entraîner un isolement et de la dépression. Mmh. On dit même que les aînés qui ont cessé de conduire ont deux fois plus de risques d'avoir des symptômes dépressifs que les conducteurs âgés.
Ouais,
et cette cessation-là est associée aussi à une probabilité accrue d'institutionnalisation, pardon.
Oui, c'est-à-dire?
Donc, de devoir changer de milieu de vie et d'être hébergé dans une résidence de personnes semi-autonomes.
Donc, l'isolement... la dépression éventuelle. Comment est-ce qu'on peut repenser sa façon de vivre sans voiture? C'est ce que vous proposez, hein? C'est ce que le centre de recherche propose aux personnes. Qu'est-ce que vous leur proposez exactement?
Effectivement, avec une équipe de 6 étudiantes oui. À la maîtrise en ergothérapie et une monitrice de conduite, nous travaillons actuellement à traduire une intervention pour accompagner les aînés qui ont cessé de conduire à poursuivre leur déplacement dans la communauté.
Bon.
Donc, c'est vraiment des rencontres de groupe qui vont aider les aînés à connaître les ressources et les services disponibles dans la communauté, mais aussi à faire le deuil de l'utilisation de l'automobile. Donc, par exemple, un aîné pourrait souhaiter apprendre à utiliser le transport en commun,
oui.
contacter des organismes communautaires qui font des transports bénévoles ou utiliser les services mm-hmm. de taxi. Puis l'intervention, grâce à une approche graduelle de 6 rencontres, les aide à cheminer à travers ça et aussi à travers les expériences des autres participants qui font partie du groupe.
Mm-hmm. Autrement dit, ce que vous leur dites, c'est « ne paniquez pas ». On va respirer et vous allez voir, il y a plein d'autres solutions sympathiques en plus parce que ce sont des solutions qui peuvent permettre à la personne âgée d'éviter l'isolement.
Exactement. Et c'est dans le fond, il s'agit de repenser sa façon de se déplacer et aussi d'être conscient des risques qui vont avec le fait de cesser de conduire et donc de ces risques-là, comment... les éviter, comment éviter d'avoir un isolement social, comment éviter d'être éventuellement institutionnalisé.
Oui, et puis comment accepter cette décision-là aussi, j'imagine?
Tout à fait. Certains aînés vont le faire de leur propre chef, donc c'est eux qui vont résilier eux-mêmes leur droit de conduire. Par contre, d'autres aînés vont se voir imposer cette décision-là. Donc, peut-être qu'un cheminement ou en tout cas un accompagnement est plus nécessaire dans ces cas-là.
Alors, cet accompagnement-là que vous proposez, d'abord, c'est une idée qui vient d'Australie, c'est bien ça?
Oui, c'est des chercheurs de l'Université de Queensland en Australie qui ont développé cette intervention-là qui s'appelle en anglais le « Car Free Me ». Que nous, on a traduit par « Vivre sans ma voiture
okay. ».
Et grâce à une subvention qu'on a eue du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, on a pu adapter cette intervention-là au Québec grâce à une équipe d'experts, dont d'autres chercheurs à travers le Québec et même le Canada qui ont une expertise en conduite automobile, mais aussi des intervenants de la Société d'assurance automobile du Québec.
Mm-hmm.
Puis on a fait appel aussi à un traducteur professionnel pour nous aider dans ce travail-là.
Alors, vous êtes de Sherbrooke, hein, Madame Levasseur, vous êtes de l'Université de Sherbrooke et vous travaillez, vous nous l'avez dit, avec des étudiants, hein, c'est bien ça. Hein?
Oui, bon. Des étudiants à la maîtrise en ergothérapie.
Bon, mais pour l'instant, d'abord le projet, il n'en est encore qu'au projet pilote et uniquement à Sherbrooke, c'est bien ça?
Exactement. L'intervention, c'est vraiment une première expérimentation de la version traduite et adaptée au Québec et spécifiquement à Sherbrooke qu'on va expérimenter avec une douzaine d'aînés seulement, là, on pourrait dire même une quinzaine
oui.
d'aînés qui vont participer à 6 rencontres de 3 à 4 heures qui débuteraient là, cette semaine, la semaine prochaine, pardon,
okay.
pour six semaines consécutives.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà vos personnes âgées pour ce projet pilote ou est-ce que vous avez encore besoin de monde?
Actuellement, on a encore besoin de monde et les gens qui sont intéressés peuvent nous contacter au Centre de recherche sur le vieillissement.
D'accord.
Pour signifier leur intérêt. Des fois, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui se désistent ou qui ont d'autres engagements ou qui ont des petits ennuis qui ne peuvent pas se présenter.
Ou qu'on peur.
Donc, oui, on va continue de recruter les participants qui sont intéressés. On cherche des gens qui ont récemment cesser de conduire, donc idéalement dans les 6 derniers mois.
D'accord.
Et qui comprennent bien là, le français, qui peuvent, qui ont la capacité, dans le fond, de suivre ces rencontres de discussion-là et de participer, de donner leur avis sur notre nouvelle version adaptée.
D'accord, d'accord. Sur le plan cognitif, j'imagine que parce que dès l'instant qu'on perd le droit de conduire, c'est parce qu'on considère qu'on a des problèmes cognitifs. Vous prenez des gens qui ont des problèmes de cognitifs légers?
Oui, on peut avoir des petits troubles de mémoire légers, mais il faut quand même avoir une capacité de donner un avis.
D'accord.
Vu que c'est un projet de recherche. Cette intervention-là, elle peut, dans le fond, elle peut s'adresser à des gens qui ont des capacités, des atteintes cognitives un peu plus sévères,
okay.
mais dans tous les cas, nous, pour le projet de recherche, comme on vise à recueillir l'opinion des gens, c'est quand même important, là, dans un premier temps, d'avoir des participants qui ont des atteintes légères ou pas d'atteintes cognitives, parce que c'est pas l'unique raison qu'on peut vouloir cesser de conduire. On peut avoir des problèmes de nature plus physique ou des problèmes
visuels,
de santé qui empêchent de conduire sécuritairement et
bien
qui font en sorte qu'on doit cesser.
Alors, ça va se passer à Sherbrooke. Est-ce que des gens extérieurs à la ville de Sherbrooke peuvent s'inscrire?
Idéalement, on cherche des gens de Sherbrooke parce que, par exemple, l'utilisation du transport en commun à Sherbrooke est particulière. Donc, l'adaptation a été faite aux ressources sherbrookoises.
D'accord.
S'il y avait des gens qui seraient intéressés, qui seraient à l'extérieur de Sherbrooke, mais qui seraient disponibles pour se déplacer à Sherbrooke et qui seraient capables de... qui seraient conscients de cette petite adaptation-là qui devrait être faite un coup dans leur propre milieu, dans leur propre ville, bien, ça pourrait aussi, mais je pense que l'idéal, ce serait vraiment d'avoir des gens de Sherbrooke.
Et puis l'idéal, ce serait qu'une fois le projet pilote complété, on retrouve ce type d'intervention-là, vivre sans ma voiture partout au Québec, quoi.
Oui, et on est en pourparlers.
Voir au Canada.
La Société d'assurance automobile du Québec, on a des contacts avec eux pour les tenir informés de nos résultats de recherche.
D'accord.
Il y a aussi des écoles de conduite, des moniteurs de conduite qui peuvent être intéressés ou des ergothérapeutes à travers le Québec, effectivement, qui pourraient donner cette intervention-là.
Alors, on va se quitter dans quelques secondes. Madame Levasseur, avant, je voudrais que vous nous donniez vos coordonnées si des fois des gens qui nous écoutent en ce moment seraient intéressés pour s'inscrire.
Donc, ils peuvent contacter le 819-821-8000, le poste 70-178.
Alors, je vais le répéter, 819-821-8000, le poste 70-178, 70178. Sinon, il y a une page Facebook.
Par courriel. Par courriel pourrait être le moyen. Une de mes étudiantes, Noémie Lannoy. Donc, noémie.lannoy.
D'accord.
@usherbrooke.ca pourrait aussi être une façon de mentionner son intérêt.
D'accord. Est-ce qu'il y a une page Facebook avec ça?
Non. Par contre...
Mais ça va venir.
Je suis moi-même aussi très facile à trouver sur le web.
Bon, d'accord.
Mélanie Levasseur, s'il y a quoi que
d'accord.
ce soit aussi, vous avez mes coordonnées courriel.
Parfait. D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, Mélanie Levasseur, pour
Merci.
Toutes ces informations. Je trouve ça vraiment épatant de savoir que ça existe et que c'est en mouvement. C'est bien.
Ben, merci à vous et bon été.
Merci. Bon été à vous, Mélanie. Au revoir.
Au revoir.
Lotu matun denzilebo Wantatelin dotaya Lotu matun denzilebo Watatu tavantaba Lotu matun denzilebo Wantatelin dotaya Lotu matun denzilebo Watatu tavantaba
L'été sur Canal M est toujours Clotilde Seille en votre compagnie. On adore l'été et on adore ce magazine parce qu'il nous permet de pouvoir sortir aussi des frontières du Québec et de pouvoir découvrir, eh ben, par exemple, d'autres associations comme l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire et son directeur qui est Danny Soucy. Bonjour, monsieur le directeur.
Bonjour.
Alors écoutez, nous sommes ravis de pouvoir faire connaissance avec Lambic, parce que c'est comme ça que vous l'appelez, hein?
Oui, c'est Lambic, oui.
C'est Lambic, c'est ça. Vous êtes situé où exactement au Nouveau-Brunswick?
Le bureau principal est à Fredericton.
OK, à Fredericton, oui.
Oui, mais on a cinq autres bureaux dans la province.
OK.
Qui partent de Edmundston, Bathurst, Miramichi, Moncton et Saint-Jean.
Partout où nous sommes diffusés, parce que vous savez que Canal M est diffusé au Nouveau-Brunswick via l'Internet ou encore via votre réseau de câbles de distribution.
OK.
Voilà. Alors, Monsieur Soucy, qu'est-ce que c'est Lambic?
Lambic, c'est une association qui a été formée par des parents en 1957. Des parents qui avaient des enfants qui avaient un handicap intellectuel,
oui,
et qui voulaient avoir une éducation pour leurs enfants.
Mm-hmm.
Donc, cette année, on célèbre notre 60e anniversaire.
Oui.
Et puis, Lambic a changé au courant des années, où ce que, elle est devenue une association qui défend les droits des personnes ayant un handicap intellectuel et leurs familles.
Oui.
On travaille pour rendre nos communautés beaucoup plus inclusives aux personnes ayant un handicap, pour qu'ils puissent vivre d'une façon, la même façon que toi et moi.
Oui, bien sûr.
Qu'ils aient la même chance de vivre leur vie pleinement.
Oui. Avez-vous l'impression, au Nouveau-Brunswick, est-ce que le gouvernement vous aide? Voilà, tiens, je vais vous le dire comme ça. Est-ce que le gouvernement provincial est très... Parce que nous, ici, vous savez comment c'est, on a eu le droit, malheureusement, à beaucoup de coupures et du coup, les organismes et tout... Bon, c'est très difficile financièrement pour nous à ce niveau-là. Comment ça se passe au Nouveau-Brunswick pour vous?
Je crois que c'est pas facile pour
personne,
aucune organisation à travers du Canada ou d'autres pays même. Mais on a une bonne relation avec les différents gouvernements qui ont tenu poste à Fredericton.
Donc, oui.
C'est là où est notre gouvernement. On a toujours eu des bonnes ententes avec les gens travaillant dans les différents ministères. Puis les différents ministres qui ont eu lieu dans les années passées, puis l'année qu'on est dedans aujourd'hui. Là.
Oui, oui.
On n'est pas toujours d'accord avec un et l'autre.
Oui,
mais on a une façon de travailler ensemble pour arriver à un but qui est positif pour
c'est
les gens.
C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, mais je remarque des choses. Par exemple, la dernière fois que je suis allée à Moncton, je remarquais qu'il y avait beaucoup de pancartes écrites en braille, par exemple, voyez-vous, pour les non-voyants.
Mm-hmm.
Et je trouvais ça vraiment, vraiment épatant, parce que nous, ici, dans les promenades, je n'en connais pas. Tout est fait pour les voyants. Alors que là, il y avait vraiment comme des grandes pancartes sur les bords du fleuve et écrites en braille. Et c'est pour ça que je me disais, écoute, donc, il y a quand même des choses aussi qui sont faites au Nouveau-Brunswick.
Et des choses qui sont très positives. positif. Oui. Et puis, les gens sont beaucoup plus ouverts qu'ils étaient dans le passé.
Oui.
Quand on parle d'inclusion ou accessibilité, mm-hmm. On parle pas seulement une rampe. On parle de une rampe pour entrer dans un édifice, c'est très important. Les toilettes accessibles,
oui,
c'est très
oui,
important.
Oui.
Mais aussi, les gens ont besoin d'être accessibles.
Oui, bien sûr.
Parce qu'ils croient que tout le monde y appartient. Mm-hmm. Tout le monde devrait avoir le droit d'y être et le droit d'y participer à les différentes activités.
C'est ça, l'inclusion. Hein?
C'est ça. C'est de ne pas créer quelque chose. Nous autres, on travaille très, très fort dans la province. De ne pas créer quelque chose à côté qui est pour mm-hmm. les enfants d'un tel âge qui ont un tel handicap.
Mm.
On parle que l'activité qui existe dans la communauté, pourquoi pas adapter les choses pour pouvoir inclure l'enfant ou le jeune adulte dans cette activité-là,
mm-hmm.
pour qu'il puisse
mm-hmm.
participer avec ses voisins, avec ses membres de sa famille, etc.
Exactement. Alors, Lambic, vous l'avez dit, vous travaillez beaucoup sur les droits des personnes handicapées. Est-ce que vous offrez de la formation aussi?
Oui, on offre beaucoup de formation, soit aux professionnels ou soit aux familles. Et les individus.
Mm-hmm.
On a de la formation, comme on va travailler dans les écoles.
D'accord.
Où que peut-être que à tel niveau, il y a des gens comment inclure les enfants dans les activités parascolaires ou scolaires. Et puis, donc, on travaille avec les différents professionnels, pas seulement les enseignants, parce que mm-hmm. la communauté de l'école, c'est plus que seulement que les enseignants.
Oui.
Donc, il y a de la formation qui est faite. On a 2 personnes qui travaillent dans toutes les écoles de la province
mm-hmm.
qui aident s'il y a besoin de la formation sur un côté, peut-être c'est la sexualité. On donne la formation pour aider sur ce côté-là. De la formation pour comment inclure quelqu'un dans différentes activités. Ou ça peut être, du point de vue académique, comment travailler le sujet pour que cet enfant-là puisse avoir des composantes que lui peut apprendre, puis comment casser les différents sujets pour...
Bien sûr.
Puis travailler avec comment rendre l'édifice, la bâtisse, inclusif pour tous les gens. Donc, puis il y a aussi de la formation pour les familles où ce que on invite des familles à des retraites, où ce que les familles ont une chance de discuter de leur vécu, les lacunes, puis ensuite nous on peut donner l'information comment manœuvrer les différents systèmes qui existent, puis comment aller chercher l'information qu'ils ont besoin, ou comment quand ils sont dans une réunion comment pas se contrôler, mais disons vraiment...
Comment s'exprimer efficacement?
D'une façon où ce que tu donnes le message,
mais
que tu n'as pas perdu la relation.
Mm-hmm. Et tu n'as pas perdu le contrôle.
C'est ça, oui.
C'est l'une des rares fois où j'entends parler de cela dans le milieu, puis je trouve ça vraiment formidable. Lambic, vous faites de la recherche aussi?
Oui, on a une personne qui s'occupe de les politiques puis les différents programmes qu'on aimerait essayer de développer dans la province, essayer de prouver à la province que ça peut fonctionner, mm-hmm. puis ensuite développer un programme qui va être provincial, etc.
D'accord.
Et puis, on fait de la recherche dans les différents pays, qu'il y a des choses qui existent déjà, qui fonctionnent bien, puis on essaie d'aller chercher les différentes composantes de les différents programmes, puis essayer de créer quelque chose qui est, en utilisant toutes les différentes choses qui existent dans le monde, disons.
Wow, ben oui.
Puis essayer de créer quelque chose de nouveau chez nous, mais que le meilleur de chacun de ceux-là.
OK. Et il y a aussi, au Nouveau-Brunswick, grâce à Lambic, vous offrez des activités récréatives et de loisirs inclusifs aussi, hein?
C'est qu'on n'offre pas l'activité comme telle.
Okay, d'accord.
On travaille avec les différentes organisations qui offrent les activités.
Parfait.
Pour donner la formation de comment on inclut les gens. Comment est-ce qu'on s'assure que les activités de la ville soient inclusives à tous les gens mm-hmm. de la communauté? Peut-être c'est le transport qui est un problème pour différentes personnes. Comment qu'on fait pour s'assurer que l'activité invite des gens à emporter d'autres gens?
D'accord. Et alors, écoutez, moi, j'ai l'impression, en vous entendant parler et aussi en regardant les prix que Lambic a reçus, que c'est vraiment... une organisation hyper importante au Nouveau-Brunswick, c'est bien ça. Parlez-nous de ces prix que vous avez reçus récemment, monsieur Souci.
on croit être important, nous autres aussi.
Mais
les
oui,
familles
il faut.
Nous disent que c'est important que, oui. que l'ambic y soit. Le dernier prix qu'on a reçu, c'est le prix de le Globe and Mail,
oui.
puis Morneau Chapelle,
oui.
qui est c'était la première fois cette année qu'il faisait ce prix.
D'accord.
C'est le prix Milieu de travail d'exception.
OK.
Et puis, c'est un prix qui a été... Le concept vient de ces deux organisations-là.
Mm-hmm.
Puis c'était pour aider les différentes entreprises ou les mm-hmm. gouvernements, les organisations non lucratives, etc., de regarder, d'appliquer. Ils appliquaient, mm-hmm. On appliquait, c'est nos employés qui répondaient le sondage.
OK.
C'était... L'aspect du sondage était de voir... comment est-ce qu'était leur l'aspect physique, l'aspect de santé mentale, la vie de travail puis la vie hors de travail.
Mm.
Quelle était la balance?
Mm-hmm.
Et aussi poser des questions de comment est-ce qu'ils se sentaient à leur travail. Puis,
ben écoutez, félicitations! Félicitations, oui, vraiment, vraiment.
Ça a été vraiment une bonne surprise pour nous.
Bon, ben, tant mieux.
Mérité. De savoir que nos employés voyaient oui. qu'ils se sentaient bien chez nous.
Ah, ben écoutez, monsieur Soucy, si toute la direction, si les gens qui sont à la direction de ça sont aussi charmants que vous, comment voulez-vous que les employés ne soient pas contents?
C'est pas seulement la direction.
C'est pas seulement la direction, vous avez raison. Alors, l'AMBIC, l'association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire, qui a reçu le prix national du Globe and Mail, et je m'adressais à son directeur, Danny Soucy. Merci beaucoup, monsieur Soucy, à vous et à toute votre équipe, à tous vos employés, de faire autant pour la communauté des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick. C'est important.
Merci beaucoup pour nous avoir appelés, puis on apprécie beaucoup.
Mais ça nous fait plaisir, monsieur Soucy. Passez une belle journée, un bel été.
Oui, toi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, j'ai quelques informations en rafale à vous donner. On recherche des bénévoles. Le Centre communautaire Saint-Antoine, 50 ans et plus, c'est un organisme qui offre des services sociaux à travers différents programmes et activités aux personnes âgées et adultes dans la communauté. Et il s'efforce d'améliorer la qualité de vie des individus de la communauté du sud-ouest de Montréal. Et ils sont en ce moment à la recherche de bénévoles pour rejoindre leur équipe. Alors, pourquoi devenir bénévole? Eh bien, pour aider les personnes âgées et notamment qui ne sont plus totalement autonomes. Et puis, ça permet de tisser des relations importantes et puis d'offrir et d'écouter les personnes âgées du centre et d'avoir un sentiment d'appartenance aussi à la communauté. Alors, ce que les bénévoles peuvent faire, eh bien, des appels amicaux, pardon, des visites amicales, accompagner des personnes âgées à des rendez-vous médicaux ou autres, par exemple. À ce moment-là, il faut avoir un permis de conduire valide ou encore faire des jeux ou des activités avec des groupes ou apporter de l'aide lors d'événements spéciaux. Bref, si vous désirez devenir bénévole pour ce centre communautaire Saint-Antoine 50 ans et plus, vous devez contacter le centre communautaire Saint-Antoine. C'est très facile à trouver par Internet. Je vais vous donner aussi un numéro de téléphone. C'est le 514-933-7351. 514-933-7351. Et puis, je vous annonce un spectacle country au profit de la Fondation Miral, un spectacle qui ne sera pas donné par n'importe qui, mais par Paul Darèche, avec la participation spéciale d'Isabelle Boulet, Katia Darèche, Émilie Darèche et Cindy Daniel. L'événement va se tenir à 20h le samedi 8 juillet prochain au camping Sainte-Madeleine. Les billets sont en vente au coût de $30 sur le site de mira.ca ou alors sur le site de camping Sainte-Madeleine. Alors voilà, c'est là-dessus que je vous laisse pour cette semaine. C'était Clotilde Seille, qui aime l'été, qui vous retrouve lundi prochain à midi.